Calade, ma radio.
Auditeur de Calade, ma radio, bonjour. Pour cette chronique Nuances du Monde de cette semaine, c'est Emma qui a la parole. Emma, avec ses chroniques littéraires habituelles. Emma, de quoi nous parles-tu cette semaine ?
Eh bien, en fait, c'est pas moi qui vais vous le dire parce que j'ai invité quelqu'un pour m'aider sur ma chronique. Enfin, on l'a faite ensemble, en fait. C'est mon amoureux. Salut Béranger.
Salut Emma. Salut les auditeurs.
Eh bien, je te laisse annoncer la couleur.
Alors, aujourd'hui, on va vous parler du premier roman d'Alain Damasio. Donc, Alain Damasio, qui est un auteur très connu de science-fiction française. Là, on va vous parler de son premier roman, qui est aussi un très gros succès, mais qui est plus un roman de fantasy, et qui s'appelle La Horde du Contrevent. C'est une horde qui est composée de 23 hommes et femmes dans un univers un petit peu particulier, balayé en permanence par le vent. Un vent qui souffle toujours dans la même direction sans jamais discontinuer. Ce vent, c'est vraiment un personnage à part entière, voire même l'antagoniste principal. Et dans ce roman, on va nous raconter l'histoire de la 34e horde. Car oui, des hordes, il y en a eu beaucoup. Mais dans quel but ? Eh bien, les hordes, elles ont pour but d'atteindre l'extrême amont pour trouver l'origine du vent et l'origine du monde. Donc ces hordes, elles vont remonter d'aval en amont contre le vent. Dans l'univers, on appelle ça remonter. C'est l'un des nombreux néologismes qui existent sur le vent, présent dans l'ouvrage, pour le décrire, lui ou son impact dans l'univers. Et pour vous dire à quel point ça va loin, cet impact du vent dans l'univers, les membres de la Horde ont même appris à noter les caractéristiques du vent, comme son tempo, sa force, avec une écriture qui se rapprochera un petit peu de ce qu'on fait dans une partition.
Et ça commence comme ça. Mais en fait, je ne vais pas pouvoir vous le lire, je vais devoir vous le décrire, parce que sur la première page, on a d'abord des signes typographiques, des virgules, des tirets, des parenthèses, des apostrophes. Et puis, des bribes de mots apparaissent en se répétant jusqu'à former petit à petit une phrase, comme se peindrait un tableau impressionniste par petites touches qui forment finalement un tout cohérent. Le paragraphe qui apparaît est celui-ci. « À l'origine fut la vitesse, le pur mouvement furtif, le vent foudre. Puis le cosmos décéléra, prit consistance et forme, jusqu'aux lenteurs habitables, jusqu'aux vivants, jusqu'à vous. » Bienvenue à toi, lent homme lié, poussif tresseur des vitesses. À la page suivante, il démarre à nouveau par une page blanche et on a un point d'interrogation retourné qui apparaît avec une phrase disloquée sur le même principe que précédemment et qui se termine ainsi. Nous sommes faits de l'étoffe dont sont tissés les vents.
Et ce point d'interrogation retourné, on va en parler un petit peu, car elle est là pour nous indiquer quel personnage endosse la narration. Puisque dans ce roman, la narration est partagée entre les 23 protagonistes membres de la Horde.
Alors, petit point narratologie, dans un récit, normalement, on a soit un narrateur interne, qu'on appelle aussi homodiégétique, c'est un personnage de l'histoire. Et il va raconter, du coup, de son propre point de vue, ce qu'il est en train de vivre. Soit un narrateur externe, qu'on appelle hétérodiégétique, qui peut raconter soit du point de vue d'un seul personnage, soit d'aucun point de vue, hein, comme une caméra, soit du point de vue de tous les personnages de manière omnisciente. C'est ce qu'on appelle la focalisation zéro.
La particularité ici, c'est que l'on a le point de vue de chaque personnage qui va raconter à la première personne son point de vue, avec sa propre personnalité, son propre style et son propre symbole pour le représenter dans la narration.
On a par exemple l'oméga grec qui représente Golgoth, le traceur, celui qui mène la horde, au sens propre comme au figuré, un personnage marqué par la force et la brutalité et qui parle comme ça.
Dès que j'ai reniflé le blast, à l'odeur de froid, j'ai su que ça allait charcler. J'ai enfoncé mon casque de cuir, plein front, sanglé le pourpoint, sec, jusqu'au groin. Puis j'ai plongé la tête et je lui suis rentré dedans, au chenil. Dans la ruelle, ça picorait au bec dans les joues. À y foutre les mains, j'ai culbuté le flux. J'y ai mis des coups d'épaule, droite, gauche, cadré, en appui. Une chaise m'a enflé le genou, les tuiles valdinguaient par-dessus nos têtes. J'ai évité de trop longer les burons à cause des chars à voiles chaînés aux crochets qui tossaient brutaux à entailler les murs. Je pige pour Coriolis. Elle caque, c'est son premier furvent. Une pucelle encore, qui serre les cuisses. Mais putain, on va la couvrir.
Alors là, vraiment, on a tout le personnage de Golgoth, hein, à la fois très brutal, hein, il parle vraiment de façon très vulgaire. Et en même temps, il est là pour protéger sa horde, il est toujours là. Alors, un autre personnage qui lui est représenté par une parenthèse qui se referme, c'est le scribe de la horde. Celui qui doit tenir les carnets de contes pour relater le périple de la horde, pour la postérité d'une part, et puis pour l'entraînement des hordes futures d'autre part. Et lui, il parle comme ça.
Alors que la horde calait enfin ses rangs, à petits pas nerveux, géométriquement, que les casques lourds intégraux d'acier ou de bois avaient été fixés sur les têtes de ceux qui avaient la charpente pour les supporter sans fléchir, Caracol eut un geste inouï. Il sortit du pack. Muet sous l'aberration, je le vis courir. Escalader à toute volée le mur de la digue. Bondir au sommet de la crête et s'agenouiller, les bras levés dans le contre-jour, le tronc laminé par l'intensité du torrent de terre qui déferlait sur lui. Un instant, il parut transparent sous la percée. Je voulus lui hurler quelque chose, mais j'avais trop peur. Trop d'effroi au poumon pour... Il s'était déjà retourné de toute façon.
Sauve, en fait, c'est un petit peu le personnage qui représente le plus le narrateur classique, on va dire. Et là, justement, il vient de parler d'un passage qu'on va évoquer vraiment juste après, vous allez voir. Mais on voulait juste quand même encore évoquer un autre personnage qui nous tient à cœur, c'est Caracol, le troubadour chaotique de la Horde, qui, juste après le passage qu'on vient de lire, hein, cité par Sauve, va dire « Furvent ». Ceux qui vont mûrir te saluent.
Et à ce moment-là, dès les premières pages du livre, la Horde va affronter l'une des formes les plus violentes du vent, ce qui s'appelle en hiver un furvent. Et ça se passe comme ça.
Subitement, les cordes grincèrent, et la Horde recula, d'un bloc. On l'entendit, 8 secondes. Là, c'est Orochi, l'aéromaîtresse, qui vient de parler. Puis, Sauve prend le relais de la narration. C'était le moment repérable où le vent cessait de siffler pour passer à une vitesse proprement inhumaine, insupportable, même aux pierres, même aux buis. Le son perdit son ciselage aigu, sortit de la 5e forme, et devint ce qu'aucun ordier ne pouvait effacer de sa mémoire physique une fois entendu. Cette effroyable torche de terre raclée qui s'appelait le furvent. L'onde de choc fut audible à 100 kilomètres en amont. Au tonnerre projeté, et à ce moment-là, même habitué, même en face du 5e furvent comme je l'étais, une terreur froide me monta à travers l'axe de la colonne vertébrale. Et le réflexe immédiat, impossible à contrer, inutile à acquérir. Protégez-vous ! Putain de merde !
Et là, du coup, ces deux dernières phrases, hein, protégez-vous et putain de merde, eh ben, on ne sait pas qui les dit. On n'a pas le symbole d'un personnage, juste le tiret typologique classique du dialogue. Et ça, c'est pas très grave, parce qu'à ce moment-là, ce qui ressort, en fait, c'est que c'est comme si c'est la Horde qui parlait, qui forme une espèce d'entité à part entière. Un personnage qui est composé de chacun des protagonistes, qui se mélange dans une alchimie et qui donne vie à cette entité.
Et ça, on le voit bien aussi avec le dessin qui est disposé juste sous l'extrait qu'on vient de lire. Et ça arrive à plusieurs reprises, ces dessins qui arrivent, qui sont en fait, qui représentent les 23 symboles des personnages de la Horde. Et là, sur ce dessin, ils sont disposés en forme de gouttes d'eau. C'est l'une des positions de contre. Le contre, c'est les positions que prend le groupe pour avancer ou pour tenir face au vent. Et donc là, sur ce dessin, on a l'oméga tout en haut, seul, face au vent. Ses deux piliers, Firost et Erg, juste derrière lui. En troisième ligne, pour terminer le fer, c'est-à-dire la pointe de la Horde, Sauve, Talweg et Pietro. Ensuite, le gros de la goutte d'eau est formé par le pack. Donc, dans le pack, on a tous les autres personnages qui vont être importants pour la Horde. La feuleuse, l'aéromaîtresse, la guérisseuse, des artisans, des chasseurs, etc. Et pour finir, à l'arrière, donc le bas de la goutte d'eau, ce sont les 3 crocs, Coriolis, Sveziest et Barbac. Ce sont ceux qui portent les affaires, toutes les affaires de la Horde.
Et donc, cette unité au sein de la Horde, on va vraiment la voir tout au long de l'aventure. C'est vraiment la Horde contre le vent et contre le reste du monde. Et dans le reste du monde, il y a des entités qui sont un petit peu étranges, d'aspect fantomatique, qui sont presque magiques et qui interagissent avec l'environnement en transformant ce qui passe au travers d'elles. C'est ce qu'on appelle dans cet univers des crones. Et dans le passage qu'on va vous lire, Caracol affirme qu'un de ces crones, justement, présent après l'épisode du furvent qui vient de se passer, permet de ressouder les os.
N'importe quoi. Le troubadour passa derrière Talweg et lui chipa son marteau. Il avisa une pierre plate, s'accroupit et posa sa main dessus. De l'autre, il tendit le marteau à Erg. Vas-y, frappe. Erg le regarde, interloqué. Il a pris le marteau par réflexe. Vas-y, puisque je dis n'importe quoi. Arrête de déconner, je vais t'éclater la main. Éclate. Si je le fais moi-même, on croira que je triche. Je peux pas faire ça, Carac. Passe le marteau à quelqu'un d'autre. Et dépêchez-vous, le crone dérive et la 2e vague se prépare. Tout le monde se regarde, effaré. Talwegg puis Sov essayent de le raisonner. En vain. On perd du temps, dangereusement. Nous devrions déjà être arrimés aux anneaux. La lumière sombre. Le crône longe le bord de la Dodeline. Commencez à me péter les burnes, filez-moi ce marteau. Golgoth n'entre pas dans son jeu. N'entre pas dans son jeu, j'en sors. Golgoth arrache presque le marteau des mains d'Erg. Il écarte tout le monde du bras et s'accroupit à côté de Caracol, qui tient sa main bien à plat sur la pierre. Quel os ! Les phalanges du majeur et de l'index, Golgothine. Déconnez pas ! Ensuite, Silanfre prend le relais de la narration. Le son est mat et très pur. Golgoth n'a pas hésité une demi-mesure. Il a fracassé les doigts de Caracol. Le troubadour se roule de douleur dans le sable. Débile, vous êtes débile ! Il se relève et titube jusqu'au crône. Avec un visible effort, il replie ses trois doigts valides et trempe index et majeur dans la paroi du crône. 30 secondes plus tard, il retire sa main. Il a repris le sourire. Il articule un « regardez » et ouvre ses deux doigts en signe de victoire. Il n'y a plus à hésiter. Je m'avance et j'enfonce mon bras.
Et du coup, on va profiter de ce passage pour s'attarder un tout petit peu sur Silanfre, l'artisan du bois, qui, du coup, comme vous avez peut-être pu l'entendre, a un rapport très très auditif au monde. On le voit dans les termes qu'il utilise dans ce passage. Il parle de patienter une demi-mesure, de son matré très pur pour un marteau qui casse des doigts. Et on retrouve cela, c'est vraiment sa manière de parler, dans tous les passages où il va prendre la narration. Comme par exemple dans cet extrait.
Notre troubadour effleura le parchemin de métal qu'il venait de lire. Et quelque chose, comme le son d'un violon lent, profond d'abord, puis aigu à frissonner, impossiblement en sortit. Le silence à ce moment-là toucha un point de netteté absolument extraordinaire. Et on retrouve encore, hein, vous voyez, ce champ lexical de la musique, le violon, le silence, le bruit aigu. Donc lui, il est plutôt auditif, alors que Golgoth, par exemple, est clairement kinesthésique. On le voit bien dans le passage suivant.
À quoi bon raconter ? Vous autres, les abricots, vous n'y comprendrez jamais rien. Vous vous branlez sur nos vies dans vos burons, avec l'éolienne qui ronronne au-dessus de vos têtes chevelues, et vous nous enviez. Oubliez-moi, oubliez-nous. Le blast a explosé. Au son, j'ai su que ça serait hors norme. Un torrent de pierre en plein tronc. Pas du sable, pas du gravillonnant qui règne sur le plastron. De la boulasse, du cogne dur. Al me chiale en me regardant. Moi, je me regarde pas. Je pisse le sang par les oreilles. À genoux, tabassé, j'essaye de respirer. Une brique d'air après l'autre.
Alors là, Golgoth, il vient de parler du blast. C'est une autre forme du vent, hein, autre que le furvent. Alors peut-être vous voulez en savoir plus sur les différentes formes du vent, sur son origine dans ce monde, sur la quête et les nombreuses péripéties de la Horde. Eh bien, lisez La Horde du Contrevent d'Alain Damasio.
Merci Emma, merci Béranger, auditeur de Calade, ma radio. À plus.
À plus.
À plus.
Calade 100.9.